C'était ainsi une continuelle détresse de tout son être. Les jambes molles après 5 minutes de marche, le corps broyé au moindre effort, ne pouvant faire un mouvement, sans qu'il y eût au bout l'angoisse d'une souffrance. Parfois, le sol lui semblait avoir une brusque oscillation sous ses pieds. Des bourdonnements continus l'étourdissaient, des éblouissements lui faisaient fermer les paupières, comme sous la menace d'une grêle d'étincelles. Il était pris d'une horreur du vin, ne mangeait guère, digérait mal. Puis, dans l'apathie de cette paresse croissante, éclataient des emportements soudains, des folies d'inutile activité. L'équilibre se trouvait rompu, sa faiblesse irritable se jetait aux extrêmes, sans raison aucune. Pour la plus légère émotion, des larmes lui emplissaient les yeux. Il avait fini par s'enfermer, dans des crises de désespérance telles qu'il pleurait à gros sanglots pendant des heures, en dehors de tout chagrin immédiat, écrasé sous la seule et immense tristesse des choses. Mais son mal redoubla, surtout, après un de ses voyages à Marseille, une de ces fugues de vieux garçons qu'il faisait parfois. Peut-être avait-il espéré une distraction violente, un soulagement dans une débauche. Il ne resta que 2 jours. Il revint comme foudroyé, frappé de déchéance, avec la face hantée d'un homme qui a perdu sa virilité d'homme. C'était une honte inavouable. Une peur que l'encagement des tentatives avait changé en certitude et qui allait augmenter sa sauvagerie d'amant timide. Jamais il n'avait donné à cette chose une importance. Il en fut désormais possédé, bouleversé, éperdu de misère jusqu'à songer au suicide. Il avait beau se dire que cela était passager, sans doute, qu'une cause morbide devait être au fond. Le sentiment de son impuissance ne l'en déprimait pas moins. Et il était, devant les femmes, comme les garçons trop jeunes que le désir fait bégayer. Vers la première semaine de décembre, Pascal fut pris de névralgies intolérables. Des craquements dans les os du crâne lui faisaient croire, à chaque instant, que sa tête allait se fendre. Avertie, la vieille Madame Rougon se décida, un jour, à venir prendre des nouvelles de son fils. Mais elle fila dans la cuisine, voulant causer avec Martine d'abord. Celle-ci, l'air effaré et désolé, lui conta que monsieur devenait fou, sûrement. Et elle dit ses allures singulières. Les piétinements continuent dans sa chambre, tous les tiroirs fermés à clé, les rondes qu'il faisait du haut en bas de la maison, jusqu'à dès 2 heures du matin. Elle en avait les larmes aux yeux. Elle finit par hasarder l'opinion qu'un diable était entré peut-être dans le corps de monsieur et qu'on ferait bien d'avertir le curé de Saint-Saturnin. « Un homme si bon, répétait-elle, et pour lequel on se laisserait couper en 4, est-ce malheureux qu'on ne puisse le mener à l'église, ce qu'il guérirait tout de suite, certainement. » Mais Clotilde, qui avait entendu la voix de sa grand-mère Félicité, entra. Elle aussi errait par les pièces vides, vivait le plus souvent dans le salon abandonné du rez-de-chaussée. Du reste, elle ne parla pas, écouta simplement, de son air de réflexion et d'attente. « Ah, c'est toi, mignonne, bonjour. Martine me raconte que Pascal a un diable qui lui est entré dans le corps. C'est bien mon opinion aussi. » Seulement, ce diable-là s'appelle l'orgueil. Il croit qu'il sait tout. Il est à la fois le pape et l'empereur. Et naturellement, lorsqu'on ne dit pas comme lui, ça l'exaspère. Elle haussait les épaules. Elle était pleine d'un infini dédain. Moi, ça me ferait rire si ce n'était si triste. Un garçon qui ne sait justement rien de rien, qui n'a pas vécu, qui est resté sottement enfermé au fond de ses livres. Mettez-le dans un salon. Il est innocent comme l'enfant qui vient de naître. Et les femmes, il ne les connaît seulement pas. » Oubliant devant qui elle parlait, cette jeune fille et cette servante, elle baissait la voix d'un air de confidence. « Dame, ça se paie aussi d'être trop sage. Ni femme, ni maîtresse, ni rien. C'est ça qui a fini par lui tourner sur le cerveau. » Clotilde ne bougea pas. Seules, ses paupières s'abaissèrent lentement sur ses grands yeux réfléchis. Puis, elle les releva. Elle garda son attitude de créature murée, ne pouvant rien dire de ce qui se passait en elle. « Il est en haut, n'est-ce pas ? » reprit Félicité. « Je suis venue pour le voir, car il faut que ça finisse. C'est trop bête. » Et elle monta, pendant que Martine se remettait à ses casseroles et que Clotilde errait de nouveau par la maison vide. En haut, dans la salle, Pascal s'était comme stupéfié, la face sur un livre grand ouvert. Il ne pouvait plus lire, les mots fuyaient, s'effaçaient, n'avaient aucun sens. Mais il s'obstinait. Il agonisait de perdre jusqu'à sa faculté de travail, si puissante jusque-là. Et sa mère, tout de suite, le gourmanda, lui arracha le livre, qu'elle jeta au loin sur une table, en criant que lorsqu'on était malade, on se soignait. Il s'était levé, avec un geste de colère, prêt à la chasser, ainsi qu'il avait chassé Clotilde. Puis, par un dernier effort de volonté, il redevint déférent. « Ma mère, vous savez bien que je n'ai jamais voulu discuter avec vous. Laissez-moi, je vous en prie. » Elle ne céda pas. Elle entreprit sur sa continuelle méfiance. C'était lui qui se donnait la fièvre, à toujours croire que des ennemis l'entouraient de pièges, le guettaient pour le dévaliser. Est-ce qu'un homme de bon sens allait s'imaginer qu'on le persécutait ainsi? Et d'autre part, elle l'accusa de s'être trop monté la tête avec sa découverte, sa fameuse liqueur qui guérissait toutes les maladies. Ça ne valait rien non plus de se croire le bon Dieu, d'autant plus que les déceptions étaient alors cruelles. Et elle fit une allusion à la fosse, à cet homme qui l'avait tué. Naturellement, elle comprenait que ça ne devait pas lui avoir été agréable, car il y avait de quoi en prendre le lit. Pascal, qui se contenait toujours, les yeux à terre, se contenta de répéter. « Ma mère, je vous en prie, laissez-moi. » « Eh non, je ne veux pas te laisser !» cria-t-elle avec son impétuosité ordinaire malgré son grand âge. « Je suis justement venue pour te bousculer un peu, pour te sortir de cette fièvre où tu te ronges. Non, ça ne peut pas durer ainsi !»